RTL l'équipe, carrément tennis, Eric Silvestro.
Bonjour à tous, bon début de matinée à l'écoute d'RTL l'équipe, votre radio numérique du sport et de l'info. Et comme tous les jeudis, nous sommes ensemble pendant une heure pour décortiquer l'actualité de la petite balle jaune. L'actualité du tennis, elle est riche dans les rangs français. On reviendra bien sûr sur la très belle victoire de Joe Wilfried Tsonga à Marseille le week-end dernier, l'Open 13, son deuxième titre de la saison après celui obtenu à Johannesburg. Joe Wilfried Tsonga, l'étoffe d'un très très grand, d'un patron carrément. Les éloges pleuvent sur Joe. C'est lui qui a remporté le plus grand nombre de matchs depuis le début de l'année, plus que Nadal et tous les autres réunis. Joe Wilfried Tsonga, nouvel épouvantail donc de ce début de saison 2009. Il vise le top 5, il vise le record de titre de Yannick Noah. Bref, il est sûr de lui, le garçon. On en parlera dans la première partie de l'émission. Mon fils également qui a fait son entrée dans le top 10 et qui a fait un drôle de choix cette semaine en allant disputer le tournoi d'Acapulco. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose avant la Coupe Davis et les Masters sur dur là-bas aux États-Unis à Indian Wells et à Miami. La Coupe Davis également, on connaît la sélection. Place aux jeunes, Tsonga, Simon, Gasquet, mon fils. Et le vétéran, le joueur de double, Mickaël Laudra, 28 ans, il n'est pas si vieux que ça. Mickaël Laudra, l'un de ces 5 joueurs, sera retiré de la liste juste avant la rencontre le week-end prochain, lequel on essaiera de vous donner des indications ce matin dans Carrément Tennis. On reviendra également sur le tournoi de Dubaï qui se dispute cette semaine. 3 Français sont en quart de finale, 2 s'affrontent. En ce moment même d'ailleurs, ça débute, les deux joueurs sont à l'échauffement entre Gilles Simon et Fabrice Santoro. Richard Gasquet lui affrontera Andy Murray un peu plus tard dans la journée. Il y a eu des problèmes de visa également du côté de Dubaï, on y reviendra. Et puis on finira par l'actualité des filles. Et justement Dubaï la semaine dernière avec la très belle finale de Virginie Razzano-Nini pour les intimes, qui a perdu donc seulement face à Venus Williams après notamment avoir battu Safina numéro 2 mondial et Zvonareva numéro 5. Virginie Razzano sera avec nous tout à l'heure vers 11h45 dans Carrément Tennis.
RTL l'équipe Carrément Tennis.
Ils sont là, notre dream team à nous du tennis, Benoît Mélin qui est dans ses fiches, il est en train d'étudier les tableaux, ça c'est son truc, hein. Il va nous faire une demi-heure sur chaque tableau. Bonjour mon cher Benoît.
Bonjour.
Il a le regard du killer, attention.
Il part en vacances bientôt, alors non, il prépare pas ses vacances, il prépare bien les tableaux de Dubaï. Et... Ça va mon petit Benoît? Vous êtes en pleine forme? Vous avez le regard hagard, tiens, ce matin. Julien Varlet.
Salut. Bonjour à tous.
Qui a joué au tennis et qui s'est fait mal à la main.
Vous jouez grosse, trop mais j'ai fait
à la Gasquet.
Voilà, une grosse
ampoule à la main.
J'ai joué quand même avec Julien Aubry, qui est le numéro 9 mondial junior, qui joue plutôt pas mal. Donc ça a été difficile.
Ça va, les courbatures, à part donc les.
C'est surtout
les
la hanche.
Dans les mains.
C'est surtout la hanche,
ça devient dur.
Non, mais c'était sympa. Voilà.
Carole Bouchard n'a pas joué. Carole Bouchard est en pleine forme. Carole Bouchard n'a aucun problème.
Aucun problème, tout va bien.
Tout va bien.
Tout va très bien.
Merci d'être avec nous. Et Myrtille Rambion également. Elle se remet doucement de l'Australie, vous savez, ça a été.
Oh bah.
On va pas la plaindre non plus.
Bonjour. Ça fait un mois qu'elle est revenue.
Ouais, mais elle est bien.
Elle a encore le bronzage et tout. Je me prépare.
Puis en plus,
pour
elle se prépare pour partir à Miami, après à Monte Carlo.
La vie est dure, vous savez.
C'est la vie de reporter du tennis. Bon, tout le monde va bien. Et Joe Wilfried Tsonga va bien, surtout.
Très bien,
mon cher Julien Varlet, il n'en finit plus de gagner, notre Joe national.
Bah, cela dit, tant mieux. Tous nos Français jouent plutôt pas mal. Et ce qui est d'autant mieux, c'est que Joe, maintenant, arrive vraiment sur les tournois en étant tête de série 1 ou 2, voire 3. Et il fait le dernier carré où il fait la finale et il remporte encore un peu plus ses tournois. Comme on l'entendait un peu, on va un peu répéter, mais on l'attendait sur l'Australian Open. Il fait quart de finale en perdant, en faisant un bon match quand même contre Verdasco. Et puis ensuite, Johannesburg, il remporte Marseille. Donc vraiment, moi, sincèrement, tant qu'il ne sera pas blessé, il peut vraiment aller chercher des titres. C'est vraiment le petit souci physique qui pourra venir le titiller, parce qu'on le sait, en plus, il acquiert encore un peu plus de confiance, encore un peu plus d'expérience. Et quand il est dans ce style de jeu-là, on l'a vu, hein, Djokovic, maintenant, n'arrive même plus à trouver les armes pour le jouer.
Carole Bouchard, 4 victoires consécutives contre Novak Djokovic.
Il trouve pas la clé.
Là, c'était en demi-finale à Marseille.
Il ne trouve pas la clé, Djokovic. Et au retour, il ne trouve pas la clé. Dans le jeu non plus, il est gêné en passing. En même temps, depuis le début de la saison, là, on l'a encore vu à Dubaï, Djokovic, il a vraiment du mal avec son tennis, mais il y a une emprise psychologique de son gars sur lui qui va commencer à compter. Il faudra voir s'il joue en grand chelem, s'il a le même avantage, mais là, c'est plus
la seule anecdote. Victoire de Djokovic sur son gars pour l'instant, c'est malheureusement en finale de l'Open d'Australie l'an
faudra
dernier.
Il faudra voir quand ça sera un gros
tournoi. C'est vrai que pour l'instant, ça compense, on va dire, les 4 défaites consécutives.
Gagner Johannesburg, bon, le tableau était, faut quand même être honnête, pas des plus relevés, mais là, gagner Marseille en sortant Djokovic et en s'arrachant contre Lopez en ayant du mal, là, vraiment, c'était un tournoi où il fallait être là et il a confirmé, quoi.
Alors, Joe Wilfried Tsonga, cette année, c'est 6 tournois disputés déjà en moins de 2 mois, ce qui ne lui était pratiquement jamais arrivé. Ouais, ouais. C'est le garçon qui a gagné le plus de matchs, Benoît Mélin. 19 victoires pour seulement 3 défaites. Déjà 2 titres, donc Johannesburg et Marseille.
En moins d'un mois.
Début de saison idyllique, quoi.
Ouais, ouais, non, mais il est... on avait peur du physique, moi. C'est ça qui, pour l'instant, me laisse un peu pantois d'admiration, puisque le pépère, quand même, juste avant l'Open d'Australie, il l'a dit en plus après... il était complètement bloqué du dos, il est resté 5 jours au lit, il ne savait même pas s'il allait jouer à Marseille, s'il allait jouer à Johannesburg. Enfin bon, il est là, il joue, il se transcende. Il le dit à chaque fois quand il est en finale, il a l'impression qu'il joue de mieux en mieux. Alors au début, on peut se dire, le pépère, il est un peu facile sur les mots. Ben, il le prouve à chaque fois.
On va y revenir là-dessus, hein, parce que est-ce que ça pourrait devenir un problème? Est-ce qu'il en fait un peu trop, et dans l'attitude, et dans les déclarations? On ne va pas s'en plaindre d'avoir quelqu'un d'ambitieux, mais certains, je ne dis pas grincent des dents, mais...
c'est peut-être aussi bon signe. Ils ont les... quand ils commencent à grincer des dents, c'est qu'ils vous craignent un peu.
Oui, c'est vrai. On y reviendra tout à l'heure. On va rester d'abord sur ce que disait Benoît.
Ouais. Après, moi, ce qui m'a surtout impressionné, en dehors de son début d'année, donc à chaque fois, il est au minimum en quart de finale, donc il tient son rang, puisqu'on lui demande au minimum, quels que soient ses tournois, de faire ça. Il le fait même dans les tournois Grand Chelem, donc très bien. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est sa qualité tactique dans sa finale contre Liodra, puisqu'on savait que le petit problème, ce serait peut-être les retours. Et du début jusqu'à la fin de cette finale, il a à chaque fois essayé de relancer dans les pieds de Liodra. Et après, il construisait son point pour essayer de le passer en deux temps et trois temps. Et pour moi, ça... ça prouve que peut-être qu'il est un peu grande gueule dans ses déclarations, mais toujours est-il qu'au niveau de sa lucidité sur le terrain, alors là, chapeau.
Julien,
je pense vraiment, on a commenté la finale, je pense vraiment qu'il a dû apprendre du match contre Verdasco, parce que Verdasco étant gaucher, il servait pas fort et vraiment le bloquer côté revers sur le côté avantage, et il savait
Nadal
pas quoi
aussi,
faire
à Rotterdam, hein.
Et il savait pas quoi faire sur les retours. Alors c'est un jeu différent parce que Mikael Audra vient vraiment au filet, donc vraiment au contraire, il se laissait pas embarquer par la balle, il arrivait à couper la trajectoire et à contrer Mikael Audra. Et il y a un jeu aussi très important durant la demi-finale contre Djokovic, où il est mené 0-4.
Les fameux 5 services à plus de 210.
Voilà, où il enchaîne 5 services où Djokovic touche même pas la balle. Et Joe remporte son jeu, ils vont s'asseoir et Djokovic est en train de rire parce qu'il sait qu'il peut rien faire sur ce jeu-là. Donc vraiment, il arrive à hausser encore un peu plus son niveau de jeu dans le moment important.
Goran sort de ce corps, Myrtille Rambourg.
Oui, non seulement Goran sort de ce corps, mais Fabrice
Santoro. Goran Ivadzinevic, bien sûr.
Fabrice Santoro sort de ce corps parce que ce qui est intéressant aussi avec Joe Wilfried Tsonga, c'est que maintenant, il est très très bien structuré. C'est ce qui lui permet sans doute physiquement d'être là. Effectivement, on sait qu'il a un kiné qui est là en permanence avec lui, qui a beaucoup aidé en Australie, justement parce que on savait vraiment pas dans quel état il serait. Et on voit qu'il se connaît maintenant. Il sait qu'il faut qu'il arrête avant d'être complètement blessé, pété et de plus pouvoir jouer. Et il se restructure bien. Et puis maintenant, dans cette structure-là aussi, je dis Fabrice Santoro parce que vous avez vu que depuis quelques temps, voilà, Alain Solvès est dans son entourage, note ça et là des petites choses et des grosses choses tactiques, des choses qui pour nous autres, mais aussi on pourrait paraître de l'ordre du détail, mais qui finalement semblent bien l'aider. Et même si lui n'a pas accès directement à ses notes, si ce sont ses entraîneurs, enfin son coach Jerry Winogradski et puis son kiné qui s'en préoccupent, eh ben oui, ça paye. Et donc c'est beaucoup plus professionnalisé qu'avant.
Ouais, on rappelle que Fabrice Santoro, d'abord pour comprendre le parallèle, lui a tout sur un ordinateur et note plein de détails. Il fiche tous les joueurs du circuit, comment ils retournent, comment ils jouent.
Il n'empêche qu'on se fiche un peu de lui avec ça, mais il n'empêche qu'on voit que ça a marché et que ça continue à marcher encore. Et que cet ordinateur, il doit coûter cher.
On entendait tout à l'heure la vente record de Berger avec tous les... l'ordinateur de Fabrice Santoro quand il arrêtera sa carrière.
Ça va être énorme.
Les joueurs de tennis vont peut-être se l'arracher.
Non, parce que c'est vraiment par rapport à son jeu. Mais
personne ne pourra s'en servir.
Mais c'est hallucinant. C'est vraiment, c'est pas... voilà, il a 24 ans, il mesure 1m80. C'est un truc de dingue. Il a décortiqué tous ses matchs point par point avec tous les adversaires qu'il a rencontrés depuis le début de sa carrière. C'est un truc de fou. Et donc, il sait exactement qu'en 1992, quand il a joué je ne sais pas qui à 15-40, il avait fait ce service-là, il avait rapporté le point. Ça lui a permis derrière d'en remporter 3 facilement grâce à des attaques de coup droit slicé, par exemple. Et il sait que, suivant l'adversaire, 10 ans plus tard, ah tiens, c'est pas mal ça, je vais le faire.
Même si les capacités de disque dur ont augmenté, on pourra enlever quelques dossiers hein, quand même, des joueurs qui jouent plus. Fabrice Santoro, il en a joué des adversaires.
C'est plus moderne aujourd'hui pour Tsonga, mais il y a un peu de ça quand même.
Mais toujours est-il que donc Alain Solvès a incorporé cette structure pour s'occuper des stats et de la vidéo. Et c'est vrai, comme le disait Myrtille, il ne veut pas être en relation directe avec Alain Solvès parce qu'il ne veut surtout pas qu'on vienne le perturber au moment où il doit taper comme ça un coup réflexe.
Eric Vinogradski, son entraîneur, ne veut pas du tout. Il veut qu'il garde ce côté instinctif dans son jeu et qu'on ne le parasite pas avec énormément de données.
C'est le mariage parfait. De toute façon, à un moment ou à un autre, quand on arrive sur le court à ce niveau-là, il va falloir qu'il arrive à marier le côté « je construis mon point » et de temps en temps lâcher la fusée comme il le fait naturellement. Mais toujours est-il que ça va être cet alliage qu'il va réussir à mettre en place qui fera en sorte qu'il sera... indestructible.
Ouais, parce que parfois, ça peut se retourner contre nous. Quand on a tellement une tactique en place et que ça m'est même déjà arrivé, au bout de 2-3 jeux, vous mettez la tactique en place et à chaque fois, vous faites planter, ça commence à cogiter. Ça peut encore un peu plus. Non, mais ça peut encore un peu plus vous énerver parce que vous dites, mon entraîneur, il m'a dit de faire ça, je me fais contre à chaque fois. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans le jeu vraiment du schéma tactique. Il faut jouer aussi un petit peu à l'instinct.
Le souci du détail, c'est vraiment à ce niveau-là, Julien Varlet, vous qui l'avez touché, le haut niveau, le niveau professionnel, on ne se rend pas bien compte, mais Eric Vinogradsky parle carrément de Formule 1, hein, de machine d'ultra précision, et que c'est justement ce genre de petits détails, d'études de la vidéo, des statistiques, des coups qu'il faut jouer à tel moment, qui peuvent faire la différence dans les très très grands moments.
Mais on en parle maintenant, mais déjà Agassi à une époque avait un ordinateur aussi où il rentrait tous ses matchs, mais de plus en plus parce qu'on sait que ça se joue mais vraiment à très peu de choses, les joueurs techniquement et physiquement sont au point, maintenant ça va peut-être quand même le kiné qui est là pour masser, pour étirer, et maintenant il faut aussi peut-être cette aide-là tactique, parce que les joueurs font à peu près entre 80 et 100 matchs, ils ne peuvent pas non plus se rappeler tout, et c'est bien de temps en temps de s'appuyer sur un ou deux points tactiques pour jouer tel ou tel joueur.
Et Carole Bouchard, je faisais la métaphore avec la Formule 1, et on parle carrément d'espionnage, puisque Eric Vinogradsky a dit « Ok, c'est vrai, Alain Solves nous fait ci, nous fait ça, étudie les vidéos, les stats, mais j'en dirai pas trop non plus, parce que sinon tout le monde va utiliser ça. On se craint, on se marque à la culotte. Hein. » Il n'hésite pas à parler de Roger Federer, par exemple, qui va jamais dans les salles de musculation communes pendant les tournois. On ne voit jamais travailler Roger Federer. Je ne sais pas si on voit travailler Raphaël Nadal. En tout cas, pour l'instant, ça marche pas mal, surtout au niveau muscu.
Je ne sais pas après si vraiment il y a aussi pas mal de... Ça joue beaucoup mentalement, il y a aussi de l'intox, et aussi sûr. Chacun bien se préparer dans son coin. Mais c'est certain que les places dans le top 10 sont chères, ça ne se joue à pas grand-chose même au niveau des points, donc chacun essaye un peu de trouver sa formule magique. Maintenant, on l'a vu sur le match Nadal-Verdasco, il y a un moment où la tactique, c'est bien joli, mais il faut aller le chercher. Quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que
ça,
sur certains...
De ce côté-là, de Tsonga n'a pas de souci. Voilà.
Sur certains tournois, moi je me rappelle de Raphaël Nadal ou même d'André Agassi, et c'était des joueurs, surtout Agassi, c'était un fantôme. On ne voyait jamais à l'hôtel, on ne voyait jamais au club. Il arrivait 10 minutes avant dans les vestiaires pour s'échauffer et il faisait son match. On ne le voyait pas s'échauffer, on ne savait pas ce qu'il faisait. C'était un fantôme.
Mais Nadal,
c'était assez hallucinant.
Nadal est assez présent sur les
tournois. Oui, il est très présent. Ouais, c'est vrai.
Puis il y a la pression à gérer aussi. Il y en a qui n'aiment pas traîner, j'imagine, pendant 3 plombs dans les tournois.
Quand vous jouez 4e ou 5e match, vous ne savez pas à quelle heure vous allez jouer. Vous pouvez dire, bon, je vais arriver une heure
ou deux heures
avant.
Ils ont inventé notre before pour ça. Comme ça, vous finissez à 4h du matin, mais les joueurs peuvent arriver tranquillement.
Il faut trouver une solution pour ça, c'est une catastrophe.
Ah ça, on n'a pas fini d'avoir des problèmes avec ça.
Allez, Roland Garros, bientôt tu t'y mets aussi.
Heureusement, la luminosité, tout ça, c'est pas trop possible pour l'instant.
On fait des choses formidables côté lumière aujourd'hui.
C'est une petite maladie du 21e siècle.
C'est une catastrophe.
Joe Wilfried Tsonga, donc, c'est clair, nouvel épouvantail. Vous parliez du risque de la blessure, Benoît Mélin. Hier, j'ai eu la chance de partager un petit moment sur le plateau de Canal Plus avec Eric Vinogradsky, Sébastien Grosjean, Mickaël Laudra. Et Eric Vinogradsky disait, non seulement, bien sûr, on espère que ça va continuer. Là, cette semaine, on précise qu'il est en vacances, Joe. Hein. Il est à Genève, il va revenir à Paris demain avant le rassemblement de l'équipe de France pour le départ à Ostrava pour la Coupe Davis la semaine prochaine. Eric Vinogradsky m'a confirmé qu'il ne touche absolument pas la raquette de toute la semaine. C'est vacances, coupure totale. Il me disait aussi que c'est la première fois depuis très longtemps où Joe se sent vraiment à 100%, entre guillemets, c'est-à-dire que son genou ne gonfle pas. Il n'a pas mal et il n'a aucune retenue. On l'a vu notamment à Marseille, en indoor, sur une surface quand même, on va dire, compliquée et abrasive pour les articulations. On l'a vu parfois glisser un peu à la Gaël Monfils, jambes tendues, où on pourrait bloquer le genou. Voilà.
C'est une surface quand même sur laquelle... C'est pas l'ancienne surface de Bercy qui était super caoutchouteuse, où là, tous les blocages vous massacraient les articulations. Là, on peut quand même un peu glisser.
Oui, mais quand vous avez un souci, comme a pu avoir Joe au genou, il disait, regardez les matchs, il y a quand même souvent... Il ne glissait pas au maximum sur l'articulation, que là, à Marseille, il y avait, on va dire, zéro retenue. Et en plus, son genou ne gonfle plus du tout. Et Eric m'a dit hier, franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Joe aussi tranquille avec son physique. Après, on espère que ça va durer.
Mais
en ce moment, en tout cas, il n'y a vraiment aucun signe d'alerte. Et en plus, la petite semaine de vacances,
jeu,
là... va lui faire du bien, Julien, parce qu'il a beaucoup joué quand même.
Oui, non, mais de toute façon, on l'a dit, avec peut-être Andy Roddick et Radek Stepanek, ce sont les trois joueurs qui ont gagné le plus de matchs et qui ont joué le plus de matchs depuis le début de la saison. Donc, et en plus, sur des surfaces qui sont quand même plutôt dures, en Australie où il fait très très chaud. Donc c'est vrai que l'accumulation, ça fait du bien de faire une petite coupure comme cela avant la Coupe Davis, sachant qu'il va avoir une semaine pour se remettre dedans pour jouer le match de Coupe Davis. Donc il est plutôt au top.
Alors, Joe Wilfried Tsonga qui a déclaré, alors il a failli ne pas venir à Marseille, hein, parce que vous savez que son papa a été opéré, il n'a pas voulu en dire plus. C'est très bien, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Joe Wilfried Tsonga a déclaré tout au long de la semaine, toujours avec sa verve qu'on lui connaît et qui nous plaît, son intention bien sûr de viser le top 5 d'ici la fin de l'année, voire même un peu mieux, on a compris top première place mondiale entre les lignes. Il a aussi déclaré qu'il visait des records, c'est-à-dire des titres en grand chelem, et pourquoi pas même le record de titres de Yannick Noah. On rappelle qu'Yannick Noah a remporté un grand chelem à Roland-Garros en 83 et 24 tournois au total. Joe Wilfried Tsonga en est à 4. Peut-il le faire déjà, Myrtille?
Ah bah alors ça, si je pouvais vous le dire, je vous répondrais bien. Peut-il le faire? Pourquoi pas? Mais bon, il est quand même fragile physiquement. Ça, on en a parlé suffisamment. Bon, voilà. Maintenant, je sais pas, je pense que oui, marquer un gros coup en grand chelem, ça, il veut le faire, il a les capacités de le faire. Gagner d'autres tournois comme il l'a fait, du niveau de ceux qu'il a remporté, oui, il peut le faire. Mais je pense que si, côté popularité, il a envie de marquer encore plus. Et là, pour rattraper Yannick Noah, il y a encore du chemin.
Je mettrai un bémol sur ses déclarations. Hein. Je crois qu'il a bien déclaré que ce n'était pas le nombre de tournois qui l'intéressait, c'était les titres de grand chelem.
Ouais. Hein. Ah, il a parlé de record en général, quand même. Hein.
Enfin, il est très en retard par rapport à Noah au même âge, hein, au niveau des tournois gagnés.
Il a commencé beaucoup plus tard.
Si
ça le motive, s'il se fixe ce genre de record, parce que ça le motive, tant mieux. Tant que ça ne finit pas par le bloquer, il met une pression un peu inutile, parce qu'honnêtement, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas grave si jamais il bat le record de tournoi.
Ah non, bien sûr, ça c'est
donc
évident.
Si ça le motive, si c'est dans son processus pour trouver de la motivation, tant mieux. Le top 5, évidemment, ça paraît logique vu son classement actuel et la marche qu'il a. Il a pas de points à défendre comparé aux autres, ça aussi, ça va jouer en fin de saison. C'est qu'il a tellement peu joué la saison dernière qu'il a de la marge. La place numéro 1 mondial, le Nadal, va quand même falloir aller le chercher. Hein.
Vous rendez compte que...
Du moins cette année, ça c'est sûr que cette année, ça risque d'être quand même
son compliqué. Gars, il est juste numéro 3 français. C'est ça qui est énorme quand on y pense.
Ouais, c'est vrai, puisque c'est bon. Simon est 8e. Ouais.
On parle d'un gars qui
est
un de ceux qui a le plus gagné depuis le début d'année, qu'on voit potentiellement être dans le top 5, le top 3 et peut-être encore plus, potentiellement gagner un grand chelem. Il est juste numéro 3 français.
Il est numéro 3 parce qu'il a perdu ses points.
Mais oui, mais c'est génial, vous vous rendez compte, toute la marge, c'est génial.
Moi, ce que je trouve encore plus énorme, c'est que Gaël, quand même, depuis le début de l'année, on n'entend quand même pas beaucoup parler. Il est entré top 10. Ouais. Là, il est en quart à Acapulco. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il est allé faire. Après,
on y reviendra tout à l'heure. Ouais.
Et voilà quoi. Et Gaël est quand même dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. On n'en a pas entendu parler depuis le début de la saison.
Mais donc c'est vrai que Joe a eu cette période de 4 mois entre la saison sur Terre et l'US Open où il n'a pas joué du tout. Où là, il a quand même deux grands chelems au milieu pour prendre des points. Roland et Wimbledon. C'est vrai qu'il a une vraie carte à jouer cette saison, Joe, là-dessus.
Ah ouais, bien sûr.
Alors, certains, on le disait tout à l'heure, non pas grince des dents, mais accueille quand même sa relative verve avec prudence. C'est-à-dire que ça énerve un petit peu de voir un garçon qui dit « Moi, je suis pas un loser, moi, j'ai envie de faire des records, moi, j'ai envie de gagner des titres, etc. etc. » Sur le court, il est également très expansif.
Oui, voilà.
Tout ça, ça nous plaît. Hein. On s'est relativement plaint pendant des années que les Français étaient cache-misère, etc., tête basse. Est-ce que ça peut, à un moment, porter préjudice? Est-ce qu'il peut agacer sur le circuit les autres joueurs, Benoît Mélin?
Bah, je sais pas.
Ils vont juste avoir peut-être plus envie de le battre encore.
Moi j'aime bien. Après, j'espère que je le connais pas vraiment du tout. Donc, j'aimerais bien discuter avec lui pour savoir s'il change pas trop, quoi. J'espère qu'il va pas choper un petit boulard qui pourrait le
c'est pas l'impression
porter préjudice.
Il y a juste une décla avant un match à Johannesburg qui m'a fait un petit tilt. Il a dit, mais avant de rentrer sur le court, je savais que j'allais gagner, donc je l'ai joué tranquille. Moi, j'ai pas souvenir d'entendre même si Nadal peut le penser, j'ai pas souvenir d'entendre un Nadal dire, de toute manière, je savais que j'allais gagner, alors. Mais encore une fois, si lui, ça le met en confiance, si c'est comme ça qu'il gagne, après, derrière, faut assumer. Parce que les gars en face, à un moment, comme. Je pense qu'un Federer, ça va pas l'amuser longtemps. On sait qu'avec Djokovic, il a eu quand même quelques problèmes. Ça va.
Ah bah il a du mal avec tout le monde, Federer, en ce moment. Bah, avec Murray, avec Djokovic, avec Nadal.
Quand on commence à le battre, il aime pas. Mais ça va peut-être, à un moment donné, ils vont peut-être vouloir lui remettre un peu les pieds sur terre. Mais si lui, ça lui permet d'être à ce niveau-là, qu'il continue tant qu'il gagne.
Oui, mais il y a une chose aussi, c'est qu'il y a aussi une façon de le dire. Et Joe... Ah.
Avec le sourire,
voilà,
avec la banane.
Il est classe, déjà, dans ses propos, quand même. C'est pas, entre guillemets, même si... Gilles, entre quand on ne le connaît pas, est beaucoup plus pédant. Il a des mots qui sont beaucoup plus durs et là peuvent gêner, comme une phrase qu'il a dit sur Marseille, sur Mikel Ondra.
Je me suis fait chier pendant tout le match, j'ai même pas transpiré.
Il l'a dit aussi avec Mikel Ondra.
Il y a un antécédent.
Je peux vous dire que là, l'ambiance en Coupe Davis, ça va être chaud.
Donc après, il y a une façon aussi de le dire. Et Joe, parce que je l'ai vu encore il n'y a pas si longtemps que ça, n'a pas pris la grosse tête ni quoi que ce soit. Il reste un mec très humble. Donc, il y a aussi une façon de le dire et une façon de se comporter. Et les gens qui ne connaissent pas Joe et ne connaissent pas Gilles Simon iraient plutôt vers Joe parce qu'il fait beaucoup plus sympa. Et en plus, il est un petit peu nounours. Alors que Gilles est tout aussi sympa que Joe, mais fait entre guillemets un peu plus pédant, un peu plus dur, un peu plus... Donc, c'est une façon de se maintenir aussi.
Mais Myrtille, c'est justement un des problèmes qui peut se poser à Joe Wilfried Tsonga. Nous, même sans le connaître vraiment, on le voit régulièrement, on fréquente un petit peu le circuit, on parle avec les gens du milieu. Donc c'est vrai qu'on comprend son attitude. Mais quand vous regardez en tant que simple téléspectateur, bien sûr, vous êtes content de voir un Français gagner, vous êtes content de voir un Français qui fait du spectacle, voir un Français qui harangue le public. Mais moi, l'autre jour, en regardant certains matchs, je me suis quand même fait la réflexion en tant que spectateur neutre en disant... La première image, c'est il se la raconte un peu le garçon. Sans doute, c'est pas le cas.
Mais en même temps, il n'a pas changé pour faire plaisir aux gens. Je pense qu'à un moment, il faut qu'il soit lui-même. Et puis, s'ils étaient tous lisses, encore une fois, gentils, qu'ils disaient bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, honnêtement, ce serait pas très
Mais je
drôle,
pense
quoi.
Que c'est surtout les Français qui sont comme ça. Voilà, parce qu'on va aux États-Unis. Mais les gens, même Andy Roddick, qui peut avoir les mêmes déclarations, les gens, ils vont être en transe parce que Roddick, il a dit ça. Parce qu'ils sont
les énerve.
Ouais, mais ils sont quand même patriotes. Nous, on est un peu plus. Quand on voit ce que. Myrtille, quand tu étais à Orléans. Quand on voit ce que fait Penetta, nous les Français, on dit rien, ça se passe bien. On aurait fait ça en Italie, mais là, les joueuses françaises ne pouvaient plus jouer. Donc, on reste quand même, nous, des gens. Les Français, on est polis, propres sur nous, et ça s'arrête là. Après, il y a un moment, il faut aller un peu au combat, et puis s'ils pensent ces choses-là, eh ben, qu'ils les disent. Et pour l'instant, tout ce qu'il dit, il le fait. Donc,
De toute façon, c'est vrai que pour être champion, enfin voilà, il faut arrêter. Il y a un moment, on est champion, on est championne. Oui, on est persuadé qu'on est meilleur que les autres, sinon, c'est même pas la peine d'y aller.
Ouais.
Donc, voilà.
Après, puis dans l'attitude, il est cool.
Il signe ses autographes aux enfants, il est présent. Je dis pas ça, mais je demande à voir, comme vous, Benoît, comment ça va, parce qu'on en connaît qui ont été super cool, voilà, et après qui ont changé. C'est pas le cas. Joe, comme disait Julien Varlet, c'est vraiment quelqu'un, c'est un bon mec, comme on dit entre nous. Voilà. J'espère simplement qu'il n'y a pas des parasites autour qui vont faire que bah il va se prendre pour qui il n'est pas. Bon, vu son éducation, c'est un garçon éduqué, c'est comme Gilles Simon. Son éducation, il a des parents qui lui ont inculqué un certain nombre de valeurs, une famille qui est là. Je pense que ce sont des garçons bien câblés, et voilà, qui savent d'où ils viennent. Maintenant, attendons de voir.
Bien câblés, j'aime
bien
cette expression.
Bien câblés, c'est pas mal, c'est un Valbrovski.
Bien câblés. Vous êtes bien câblés, mais
je suis pas sûr.
Après, c'est un faux débat. On s'en tape comme de l'an 40 de savoir s'il a le boulard ou pas. Du moment qu'il fait des résultats, le pépère, moi, il peut avoir l'attitude qu'il veut. Je m'en fous comme de l'an 40.
Non, monsieur.
Oh là là, après, voilà, ce sera un méchant qui gagnera. Et alors, il gagnera, on sera content, on sera
alors,
la cocorico,
quand c'est Djokovic, quand c'est Djokovic, on dit oh là là, ce garçon, il est désagréable.
Djokovic,
je rejoins Benoît. S'il gagne Roland-Garros en cassant dedans l'adversaire, en déclarant que c'est le meilleur et tout, voilà. Eh ben, il aura gagné Roland-Garros quand même.
L'important,
même si c'est sans doute pas Roland-Garros qu'il faut l'attendre.
L'important dans l'histoire, c'est qu'il faisait 94 kilos au début de cette saison 2009 et qu'il savait très très bien qu'il devait être à 88 pour faire en sorte que physiquement déjà il puisse tenir sur l'ensemble de la saison. Il a baissé, il a 91. Donc s'il arrive à 88 kilos avant la saison sur terre battue, je pense que c'est ça son travail, c'est qu'il pourra de toute façon passer l'écueil de cette saison sur terre battue qui pourrait lui faire mal physiquement. Ouais. Mais s'il arrive à ses 88 kilos, pour lui c'est son poids de forme optimal. S'il est à ça, il va voler après jusqu'à la fin de la saison.
Alors on n'en est pas encore là puisqu'il y a la Coupe Davis et puis il y a bien sûr Indian Wells et Miami qui sont les deux gros tournois de la tournée américaine. Mais c'est vrai que la saison sur terre battue sera peut-être un moment charnière dans la saison de Joe Wilfried Tsonga, Julien, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a des points à prendre puisqu'il n'a pratiquement pas joué. Ensuite parce qu'on verra comment son physique va réagir et sans doute qu'il ne faudra pas trop jouer sur terre battue pour garder justement encore des forces
derrière.
Cela dit, déjà, derrière.
Où Benoît a raison, c'est que s'il perd du poids automatiquement, ça lui soulager encore un petit peu ses articulations. Jouer, il va falloir vraiment trouver un minimum de tournois sur terre battue. Arriver comme il le fait si bien, parfois il joue pas beaucoup, mais quand sur les gros rendez-vous,
il va jouer les deux obligatoires. Les...
Voilà, oui, non, mais bien sûr. Et Roland Garros, mais après,
il y en a pas mal. Hein.
Il peut arriver sur un gros rendez-vous très bien. Et faut pas oublier que sur terre battue, mine de rien, on parle toujours des gros serveurs qui ont un peu de mal sur terre battue. La différence, c'est qu'il aura plus de temps. Et à partir du moment où il a plus de temps, il peut placer encore un peu plus ses appuis et frapper encore un peu plus
mais
fort.
Mais il fera moins mal.
C'est pas sûr, c'est pas sûr, parce qu'un Marc Philippe Poussy sur terre battue, c'est quand même lui qui nous l'a mis en Coupe Davis à Nice en
99. Qui nous a mis quoi?
Qui vous a mis quoi?
La blague autre chose.
Qui nous a battu.
Ça inaperçu, vous êtes vraiment désagréable.
Qui nous a battu en 99, alors qu'on voulait jouer absolument sur terre battue, parce qu'on savait que.
Ah, il était bien câblé, lui aussi, ce jour-là.
Mais bon, donc voilà, donc faut pas.
Ils nous ont dansé sur le ventre.
Voilà. Mais bon. Voilà.
Voilà, il est
mais faut pas oublier.
Et puis après, le gazon, t'imagines le jardinier de Wimbledon qui doit commencer à flipper parce que s'il balance des mythes comme il
déjà
le fait.
Déjà que ça dure pas longtemps,
il va y avoir bonne trachée sur le côté
il
du
va y avoir, court. Il va y avoir du problème. En effet, Joe Wilfried Tsonga, donc pour qui tout va bien dans ce début de saison 2009, 11e mondial, deux titres déjà cette saison à Johannesburg et à Marseille. Dans la deuxième partie de l'émission, dans quelques minutes, on reviendra sur l'entrée dans le top 10 de Gaël Monfils, sur la Coupe Davis, la sélection avec Tsonga, Simon Gasquet, Monfils et Laudra, sur le tournoi de Dubaï, Simon Santoro qui s'affronte, Gasquet Murray à venir, et puis on aura Virginie Razzano en ligne tout à l'heure en fin d'émission pour revenir sur sa belle finale la semaine dernière à Dubaï face à Venus Williams.
Carrément Tennis, Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis, toujours avec Julien Varlet, Benoît Mélin, Myrtille Rambion et Carole Bouchard. Nous allons parler de Gaël Monfils dans cette deuxième partie de la Coupe Davis. Le premier tour de l'équipe de France face à la République tchèque le week-end prochain du 6 au 8 mars de Dubaï. Tournoi en cours avec trois Français en quart de finale. Et nous reviendrons avec la principale intéressée en direct, Virginie Razzano, sur sa belle finale la semaine dernière dans ce même tournoi de Dubaï, mais féminin.
RTL l'équipe Carrément Tennis.
Gaël Monfils, donc, en effet, a fait son entrée dans le top 10 mondial. Il est numéro 2 français, derrière Gilles Simon, numéro 8, devant Joe Wilfried Tsonga, numéro 11, et Richard Gasquet est légèrement plus loin, désormais 26e. Mais les 4 mousquetaires. Oh, il va recoller, Richard Gasquet, vous
inquiétez
pas.
Il est quand même 26. Hein.
Il voilà. est quand même 26. Ce qui est pas mal.
Mais c'est bien payé.
Il peut faire beaucoup mieux.
Il y en a qui sont 26 qui vont arrêter leur carrière. Donc
si tu parles de Marat, ça va mal se passer.
Mais non, mais c'est la vérité, je veux dire.
Gasquet qui a battu Marat, sa finale à Dubaï, on y reviendra tout à l'heure. C'est Carole Bouchard et ton deuil. Mais il faut vous habituer, il va pas gagner beaucoup de matchs.
Oh, hein. Il va faire une tournée d'adieu. Mais qui perd, je bien mangeant comme ça, ça faut qu'il arrête. Quoi.
Alors, Gaël Monfils dans le top 10. Gaël Monfils sélectionné, pré-sélectionné pour l'équipe de France de Coupe Davis parmi les 5. Je vous rappelle Tsonga, Simon, Gasquet, Monfils et Laudra. Mais Gaël Monfils, qui est un peu à la surprise générale, se trouve cette semaine à Acapulco pour un tournoi sur terre battue. Ouais. Étrange choix.
Bah, il dit super soirée sur la plage.
Bah, il dit qu'il s'était engagé avant, donc il voulait pas se prendre une amende en n'y allant pas. Enfin bref, la terre battue, même s'il comptait pas sur la Coupe Davis, avant la saison sur dur américaine, c'est un peu bizarre. Quoi.
Très bizarre, en effet. Alors on peut se dire, tiens, peut-être qu'il veut mettre toutes les chances de son côté, il se sent très fort sur terre battue. Il a fait demi-finale à Roland Garros l'année dernière.
Mais c'est encore loin, Roland.
Sauf qu'il n'aurait pas fait qu'Acapulco, il aurait fait aussi des tournois d'avant. Dans
c'est
cas.
Ce qu'il a dit. Il avait envie de jouer sur terre battue, alors il n'avait qu'à faire toute la saison. Ben ouais. la saison.
Richard Gasquet avait fait une année d'ailleurs, ouais. pour fuir un
mais
petit
avec,
peu la pression.
Avec Tariq
européenne.
Benabiles. Hein. C'était Tariq qui lui avait dit pour étoffer un peu ton jeu, il faut que tu partes en Amérique du Sud, jouer sur terre, tu vas jouer des mecs très durs. Mais il fait un tour. En plus, il y a du décalage horaire, c'est pas la même surface, c'est pas la même chaleur. Alors moi, j'ai entendu dire qu'il y a une. Petite garantie ouais, dessous et il y aura une demoiselle aussi, mais bon, après.
Ah, cela ne nous
regarde pas.
Non, mais là, ça nous regarde.
La garantie, c'est sans doute probable, il ne faut pas se le cacher.
Non, mais ça, la garantie, on s'en fout, ils prennent tous de l'argent dans ces trucs-là. Mais le truc, c'est qu'Acapulco, c'est un tournoi qui est connu maintenant dans le milieu du tennis.
C'est-à-dire hommes et femmes en même temps.
Voilà, hommes et femmes en même temps. Ça appartient à un milliardaire mexicain qui, bien évidemment, met en place une.
Des soirées people?
Ah bah
non mais t'as le terrain de tennis, il est faux. Dans ta chambre d'hôtel.
Il y a l'hôtel façon aztèque qui est un petit peu comme ça en U. En face de ce U, il y a le court central avec quelques petits cours d'échauffement et derrière ce court, il y a la plage avec la baie d'Acapulco. Et au milieu de ce petit paysage infernal, vous vous rendez compte, il y a le village. Et le village, donc il y a une soirée officielle entre guillemets, on va dire, et tous les soirs. C'est ambiance folie totale. Et bien évidemment, ça commence à se savoir. Au début, c'était simplement les joueurs sud-américains qui y allaient, parce que bon, Acapulco, Gizeg allait taper des babas là-bas, il y avait que les sud-américains. Après, les Espagnols, ils sont venus. Et tous les mecs sont arrivés sur le circuit en disant « Les gars, faut y aller, il y a ambiance de folie là-bas. »
Là, ils ont Venus Williams qui s'est
déplacé. Et maintenant,
il y a
les nanas. Ouais. Donc, autant vous dire qu'Acapulco, c'est on prend de l'argent, on joue un peu au tennis et surtout, on fait la fiesta. Donc, le Gaël, mon fils, encore une fois, c'est même pas un tacle que je vais lui mettre. Je vais le décoiffer pour l'année. C'est du grand n'importe quoi. Il n'a rien à foutre au tournoi d'Acapulco. Vu son classement, vu la Coupe Davis et vu normalement ses prétentions actuelles, puisqu'il est 10e joueur mondial, il n'a rien à foutre au tournoi d'Acapulco.
Il est dans un village adulte, dans un club de vacances.
Voilà, il est en vacances.
Il y a Flavia Pennetta, d'ailleurs.
Il y a Vénus qui bloque de là-bas. Elle ne parle que de la plage et des restaurants. Donc, effectivement.
Mais Vénus a émis en. Les Sœurs Williams, on a un peu l'habitude.
Cela dit, on a une petite française qui est en quart de finale, Mathilde Johansson. Ouais.
C'est vrai. Pauline Parmentier, elle a perdu contre Flavia Pennetta 6-1-6-3. Gaël Monfils, donc, est-ce que, franchement, je pense que ça va lui coûter sa place en Coupe Davis.
Mais juste pour revenir, ce que disait Benoît, à la rigueur, il n'a rien à foutre. S'il avait fait les autres tournois, s'il avait fait Vina Delmar...
Oui, ça aurait été un vrai choix terre battue.
Là, c'est pas, c'est bizarre. En plus, il y a Dubaï cette semaine. Bon, bref. Mais comme vous disiez, je pense qu'il sera écarté sur l'équipe.
Parce que c'est vrai que c'est une conséquence, on peut en parler, hein, c'est lié. La Coupe Davis, donc on a eu la sélection qui a été annoncée cette semaine. Le rassemblement est prévu samedi matin à 9h à Paris. Ils vont se retrouver tous ensemble, ils vont passer la journée de samedi et la soirée à Paris. Et ils partiront, le staff et les joueurs, dimanche soir à Ostrava, en vue donc du premier tour de Coupe Davis face à la République tchèque, du 6 au 8 mars prochain, à partir de vendredi. Ce sera d'ailleurs, j'en profite pour vous le préciser, en direct sur RTL, l'équipe. Ah, les deux premiers simples du vendredi, notamment. Bien sûr, amateurs de tennis, vous serez là avec nous. Il y a Tsonga, Simon, Gasquet, mon fils, Laudra. Donc, il y a les quatre mousquetaires, d'accord. Et notre joueur de double, même s'il n'aime pas qu'on le catalogue comme joueur de double. Mais enfin, bon, là, dans la sélection de Coupe Davis, ce sera quand même le pilier du double. Je ne vois pas Guy Forget se passer de Mickaël Laudra dans la sélection et laisser les quatre jeunes tout seuls. Donc, Mickaël Laudra, on va dire, est partant à coup sûr. Comme Joe Wilfried Tsonga, ça me paraît évident pour ces deux-là. Derrière, il faut en choisir deux parmi Simon, Gasquet et mon fils.
Moi, Simon me paraît aussi incontournable. Je dirais, vu ses derniers résultats, il a amplement mérité qu'on lui donne sa chance en simple en Coupe Davis. Je ne vois pas pourquoi on l'écarterait.
Alors, Simon et mon fils, il faut rappeler qu'ils n'ont aucun match en Coupe Davis. Tsonga en a un seul et Richard en a 10. Donc, difficile là, de faire un choix. Et est-ce que justement la décision de Gaël Monfils d'aller jouer à Acapulco, de se sortir un petit peu du circuit sur dur et indoor,
risque de le pénaliser. Alors, bon, on ne va pas affirmer les choses, mais sans doute que oui, parce que ça ne fait pas le gars franchement motivé. Et on se souvient que Guy Forget, en gros, lui avait dit « Ok, c'est ton choix d'aller là-bas » et avait fait comprendre qu'il lui avait dit, dans ce cas-là, peut-être de ne pas en faire trop pour potentiellement perdre au premier tour pour avoir le temps de revenir. C'est pas le cas.
Je pense que c'est
un signe fort de la part de Gaël Monfils aussi de dire bon, bah finalement, j'en ai rien à faire.
Alors, il faut aussi se dire que la campagne de la Coupe Davis, même si le premier tour est extrêmement difficile, on le répète, Stepanek Berdych en République tchèque, ça va pas être du gâteau.
Ils ont un bon joueur de double avec lui.
Exactement. N'empêche que quand on voit l'équipe de France sur le papier, clairement, on se dit cette équipe de France, elle peut aller loin, elle peut peut-être même la gagner, cette Coupe Davis, et que la campagne en cas de victoire en République tchèque sera longue, que ces cinq joueurs seront peut-être tous utilisés à un moment ou à un autre, un peu à la mode espagnole l'année dernière, où l'équipe n'était pas
riche,
figée.
C'est un problème de riche.
Donc, Gaël Monfils jouera peut-être pas ce tour-là, mais il sera peut-être utile dans d'autres tours. Il y a aussi ça qu'il faut voir. Après, c'est pas dit du tout.
Mais c'est pas dit en plus que celui pour voir la forme du moment. Je veux dire, Richard Gasquet, il a peut-être pas forcément lui prouvé que cette saison-là, il méritait sa place en simple. Il faut voir.
C'est Gaël le seul qui a un peu d'expérience quand même en simple aussi en Coupe
Davis. Après, pour la jouer à la russe, les Russes, ils prennent le classement et ils disent OK. On prend le classement, les mieux classés, ils vont jouer.
Vous ne pouvez pas vous passer de Tsonga en simple aujourd'hui.
Mais Tsonga, il est dans l'eau. Mais mon fils
Est derrière, mon fils et Simon.
Mon fils et Simon, ça en fait trois. Il est quand même dans le top 10.
On exclut Gasquet dans ce cas.
Non, mais est-ce qu'on peut aussi facilement écarter un joueur qui obtient le meilleur classement de sa carrière en ce moment? C'est vrai que son choix de terre battue, c'est pas très futé. Maintenant, Gasquet a pour lui l'expérience, mais il n'a pas pour lui la forme du moment. Alors...
Moi, je vous livre mon analyse et ma composition type. Hein, ça n'engage que moi. Je vois très bien un Tsonga Simon en simple. Le vendredi, un double Laudra Gasquet le samedi, et puis en fonction des résultats et du scénario, on voit pour le dimanche, sachant qu'en plus Laudra est gaucher, que ça veut dire que en double Gasquet jouerait côté égalité.
Non, parce que s'il joue avec
le revers au centre,
s'il joue avec Richard jouera à droite. Et il jouera sur son côté Richard serait côté avantage.
Vous êtes sûr de ça?
Certains, ils ont déjà joué ensemble. Ils ont déjà joué
avec
ensemble.
Avec le revers au centre.
Ouais, parce que Richard, en double, ne veut jouer que côté avantage pour avoir plus de facilité pour retourner côté revers.
Ouais. D'accord.
Donc ça, c'est un choix technique aussi, mais ça, c'est sûr et certain.
Moi, je vois quand même bien le revers plein centre de Gasquet côté égalité,
mais
ça peut le faire.
Je pense qu'en parlant Coupe Davis, il faut qu'on sorte de la tête de parler coup droit, revers et compagnie. Ce qu'il faut, déjà, c'est que la mayonnaise prenne. Et je peux vous dire que la mayonnaise, pour l'instant, elle est loin d'avoir réussi à monter de quelques centilitres. parce que vous avez Forget. Pour l'instant, je peux vous dire que les joueurs le regardent en se disant bon. Mais bon, il est gentil le petit papy, mais c'est pas lui qui va nous apporter grand chose. Il y a Lionel Roux qui arrive, qui débarque dans l'histoire en tant qu'entraîneur. On se demande ce qu'il va foutre, puisque maintenant il y a Eric Vinogradsky et Thierry Tulane qui ont été acceptés dans l'entourage. Alors apparemment, ils n'ont pas le droit d'aller sur le court, mais ils sont là pour donner des conseils.
Mais alors,
donc qu'est-ce que fout
ça,
Lionel Roux dans l'histoire?
On se demande. C'est quand même énorme, les entraîneurs privés. Parce que la Fed Cup, on va faire le parallèle avec la Fed Cup. On refuse absolument que les entraîneurs privés, ne serait-ce que, rentrent dans les salles. Le papa de Marion Bartoli est exclu, on n'en veut pas. Et la Coupe Davis, on dit, ah finalement si, ça peut marcher. Alors, moi je suis d'accord, ça peut marcher, mais est-ce qu'il ne va pas falloir prendre une bonne fois une décision à ce propos quand même?
En tout cas, hier, ils étaient ensemble chez nos confrères de Canal+, Lionel Roux et Eric Vinogradsky, ils ont quand même beaucoup échangé. Le rôle de Lionel Roux, ça va être de faire le lien entre
tout ça. Mais de toute façon, ils sont là, eux, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'échanges. Parce que le petit problème, c'est que Tsonga, ça va, il est fédérateur. Je pense qu'il est pote un peu avec tout le monde. Il n'y a pas de souci avec Tsonga. Après, bon, il y a des joueurs qui ne sont pas évidents à manier, quoi. Le Gilles Simon en esprit d'équipe, pas simple. Richard Gasquet, pas simple. Mikael Jodra, Gilles Simon, autant vous dire que vous les mettez tous les deux dans le vestiaire avant de jouer le double, ils se butent. Donc, comment ça va se passer, l'histoire?
Non, mais ça, c'est sûr. Mais aussi faire abstraction de ce... C'est vrai, l'esprit d'équipe, c'est important et tout. Maintenant,
ah bah, il n'y a que comme ça qu'ils gagneront la Coupe
Davis. Mais moi, je prends la Russie. Les mecs, ils se parlent des fois même pas. Je veux dire, Davidenko et Safin Dursunov, ils n'ont rien en commun. Ils s'en fichent. Ils vont sur ce week-end-là parce qu'ils doivent gagner pour leur pays, parce qu'ils veulent la victoire. Est-ce qu'à un moment, on peut pas le faire abstraction? Mais est-ce qu'on pourrait pas se mettre, quoi? Faire abstraction de je t'aime bien, moi je t'aime pas, et juste me dire ce match-là, je dois le gagner.
Ouais, pourquoi
barre,
pas, mais la force de l'équipe de France depuis maintenant
quelques années,
ça a été de fédérer des joueurs homogènes, peut-être parfois moins forts sur le papier, mais d'avoir créé un certain état d'esprit qui faisait que voilà, on a battu les États-Unis, qu'on était allé gagner en Suède, qu'on a été gagné en Australie.
On a perdu combien de fois
Non, mais d'accord, mais parce que.
Après, là, on bloque au quart de finale depuis des années.
Mais 2004, je crois. Ces époques où on gagne en 96 à Malmö, en 91 et tout ça, il y avait, il faut bien le dire, même si maintenant il n'est plus du tout prévu qu'il arrive, mais il y avait Yannick Noah qui était quelqu'un qui mentalement pouvait fédérer n'importe qui autour d'un projet. Là, le petit souci, c'est que l'esprit d'équipe, on l'a pas, on l'a plus, donc faut arrêter de rêver sur ça. Il va falloir trouver quelqu'un qui soit à même de les réunir.
Mais est-ce qu'il peut se recréer avec cette bande de jeunes quand même?
Mais elle peut se recréer à partir du moment où on va changer un peu les données dans cette Coupe Davis, c'est-à-dire effectivement intégrer les entraîneurs, leur dire écoutez, hop, on va tous se mettre ensemble, on va travailler ensemble, puisque c'est mais pourquoi les entraîneurs ne sont pas acceptés dans le groupuscule Coupe
Davis? Donc c'est bien de tester ça.
Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Mais bien sûr, ils sont avec eux toute l'année. Évidemment. Ils se connaissent par cœur. Pourquoi tout d'un coup, alors que c'est primordial qu'il y ait un esprit d'équipe, on dit à ses entraîneurs, ah ben non, on va mettre quelqu'un d'autre. C'est débile.
Ouais, mais c'est un peu comme l'équipe nationale en foot.
C'est
pas tous les entraîneurs de club qui débarquent non plus. Enfin, je veux dire, oui, ça discute pendant l'année.
Oui, ça, c'est pas du sport individuel, c'est du sport d'équipe.
Ouais, non, mais surtout, c'est intéressant ce que dit Benoît, parce que en fait, nous, on réfléchit à part Fed Cup et Coupe Davis. Il faut savoir qu'au sein de la Fédération française de tennis, c'est le même problème. Fed Cup et Coupe Davis. Ouais. Si vous voyez où je veux venir.
C'est si terrible commence... que ce soit un problème d'ailleurs.
Non, c'est vraiment pas. Mais si on fait un geste, si on commence à dire ah chez les garçons, les entraîneurs peuvent venir.
On
ouvre la porte chez les filles.
C'est exactement
si vous voyez ce que
j'ai dit tout à l'heure.
Ça peut arriver.
Ouais, mais après, attends, il y a quand même, il faut.
Mais c'est pas un mal.
Non, mais moi,
on peut toujours dire que les filles jouent un barrage, ça n'a rien à voir.
Mais c'est vrai. Mais le problème va se poser en Fed Cup. Le problème, il est criant en Fed Cup à ce sujet-là. Donc.
Mais c'est pas. Moi, je trouve que après, c'est un faux problème. Je veux dire, à un moment. On peut se détacher de son entraîneur 5 jours pour son pays. Et à partir du moment où on rentre sur le terrain, les mecs, je veux dire, ils ont pas non plus 10 ans, quoi. Ils sont pas là avec leur entraîneur et tenus par la main.
Mais attention,
ça peut pas leur apporter quelque chose aussi d'être justement un peu avec d'autres personnes pendant 5 jours.
Je vous rappelle, c'est pas la première fois qu'on va parler Coupe Davis, bordel. Je vous rappelle.
Ah, ça y est, énervé.
Mais oui, on va jouer contre les Tchèques. On a. Même si le Thomas ne fait pas grand-chose depuis le début de la saison, c'est quand même un joueur qui peut être dangereux.
Le Federer, l'Open d'Australie, ça l'a tué.
Onal Stepanek, qui est au niveau de son gars, au niveau rapport victoire-défaite, donc je peux vous dire qu'il est intenable, le petit pépère. Ils ont une paire de doubles qui ressemble à une paire de doubles. On va se retrouver dans une configuration, match au meilleur des 5-7, esprit de Coupe Davis à l'étranger. Il n'y a pas d'expérience dans cette équipe de France. Donc les mecs vont se retrouver... plongés au milieu de ce chaudron, comment ils vont réagir, on ne sait pas. Ils vont avoir un Guy Forget qui apparemment leur parle pas plus que ça. Ils vont avoir un Lionel Roux qui apparemment leur parle le parle pas plus que ça.
Guy Forget est très effacé, hein, c'est vrai.
S'ils sont perdus au milieu d'une espèce de tourmente esprit Coupe Davis et que ça peut leur péter leur avenir de joueur de tennis sur 3 mois après pour récupérer, ben on sait pas ce qui peut se passer dans la tronche de ces joueurs-là. Si vraiment ils arrivent, imaginez le boulard qu'ils ont quand ils vont arriver quand même. Ils sont tous sur un nuage, ils jouent très très bien nos joueurs français. Logiquement, ils vont taper ces mecs. Imaginons que ça se passe très mal, des matchs en 5-7, super accrochés, des balles de match pour eux, ils les perdent ces matchs. Comment ils vont réagir? Personne, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'apport, ils n'arrivent pas à discuter. Ça peut être terrible cette Coupe Davis. Donc il vaudrait mieux qu'ils arrivent à mettre en place des jalons pour qu'il y ait une bonne communication et que les mecs qui s'occupent de toute l'année soient à côté pour discuter avec eux, pour les faire réfléchir et pourquoi pas pour digérer échec ou pas échec, mais qui leur permettent de passer ce cap. Parce que ce week-end-là, ça peut être le monde magique de Walt Disney, pourquoi pas, mais ça peut être aussi l'enfer. Donc il va falloir y aller mollo.
Je suis d'accord, Benoît, mais tu ne vas pas m'enlever l'idée qu'un joueur, Joe Tsonga, ne peut pas se détacher une semaine pour son pays tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Que rester tout le temps avec Eric Mirtz, tu peux quand même une semaine jouer sans ton entraîneur.
Effectivement,
quoi.
Je suis assez d'accord, mais je suis partagée parce que l'année dernière, pour la Coupe Davis, il s'est posé un problème, sans rentrer dans les détails. Joe Wilfried Tsonga, justement, pendant le stage Coupe Davis, a fait des choses à l'entraînement qu'Eric Winograski avait formellement déconseillé et avait dit au staff de la Coupe Davis, attention, ne lui faites surtout pas faire cet exercice-là. Résultat, on lui a fait faire ça, il s'est pété derrière.
Non, je suis d'accord que l'idée
est
pas mauvaise.
Mais là, le dialogue doit être en amont.
Dans l'absolu, je veux dire, tu peux quand même t'entraîner pendant une semaine sans ton entraîneur.
Ce qui est intéressant, c'est que Guillaume Père ne viendra pas avec Richard Gasquet.
Ni Olivier Malcor.
Alors, il y a vous parliez de mayonnaise tout à l'heure, il y a un groupe à créer, même si ces jeunes sont tous à peu près de la même génération, même s'ils se connaissent, même s'ils se fréquentent. La Coupe Davis, c'est un monde à part, c'est une semaine tous ensemble. Il va falloir aussi créer un esprit de groupe, des moments collectifs. Et ça, on sait que la nouvelle génération n'en est pas spécialement friante. Hein. C'est plutôt
grave,
la génération casque sur les oreilles, MP3,
grave.
Musique. On est loin des parties de belote dans les chambres.
C'était pas si grave.
Alors, est-ce qu'il faut aussi essayer de créer ça? Est-ce qu'il faut dire, bah tiens, le casque sur les oreilles, on oublie un petit peu cette semaine? Ou est-ce qu'il faut les laisser s'autogérer?
Mais non, c'est toujours le problème de la Coupe Davis. On ne parle plus de tennis, on parle de sport d'équipe. C'est comme si tout d'un coup, on se retrouvait sur un terrain de foot. Donc, si les mecs ne sont pas capables de se regarder entre quatre yeux et tout d'un coup de se dire, mais écoute, tu joues comme une merde, il va falloir que tu fasses ça et que tu fasses ci et que l'autre l'accepte. S'effacent un petit peu et disent « Ah ouais, t'as peut-être raison et tout ça », et qui parlent entre eux, même entre joueurs. Peut-être qu'ils laisseront Guy Forget, Lionel Roux et les autres de côté, je m'en fiche, mais il va falloir qu'ils parlent. Donc, c'est pas une génération jeux vidéo et casque sur les oreilles. S'ils n'arrivent pas à discuter entre eux, ils ne gagneront pas cette Coupe Davis, c'est sûr et certain.
Allez, premier tour en tout cas pour cette équipe de France dont on attend beaucoup, pourquoi pas, cette année en Coupe Davis. La semaine prochaine, à partir du vendredi 6, le week-end du 6, 7 et 8 mars, ce sera bien sûr en direct et en intégralité sur l'antenne d'RTL. L'équipe France-République Tchèque, Tsonga, Simon Gasquet, mon fils Laudra pour la présélection. Ils partent dès dimanche à Ostrava pour un stage de préparation, pour se préparer tout simplement à la rencontre, avant d'affronter donc Stepanek et Berdych le week-end prochain.
RTL L'Équipe, jusqu'à midi, carrément tennis.
On a beaucoup parlé de la Coupe Davis, on a évoqué la Fed Cup, on n'a pas beaucoup parlé des filles. Bah tiens, justement, on va poser la question à Virginie Razzano qui nous rejoint. Bonjour Virginie.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écouté, j'imagine, les dernières petites minutes sur la Coupe Davis. C'est vrai que la Coupe Davis ou la Fed Cup, Virginie, c'est tellement particulier. Vous faites un sport individuel toute l'année. Et puis là, c'est une épreuve par équipe. Il y a une vraie difficulté à gérer ce passage entre l'année individuellement et les moments collectifs en Fed Cup ou en Coupe Davis.
Oui, c'est pas évident, sachant que déjà, on a un calendrier qui est assez chargé au niveau WTA ou ATP. Donc ça demande à jouer beaucoup de tournois en une année. Et donc c'est vrai que c'est difficile des fois de pouvoir associer les deux, sachant que après des fois de très grosses tournées américaines ou australiennes, il y a tout de suite la Coupe Davis ou la Fed Cup qui s'enchaînent. Donc la récup, elle n'y est pas toujours. Et donc après, pour être performante sur d'autres tournois qui suivent, ça devient un petit peu plus difficile. Comme on n'est pas des robots, c'est plus dur à gérer. Alors après, ça dépend du niveau de forme de chacun à tel moment, à telle période. Si le corps suit en fonction de l'âge aussi de la personne, ça peut passer. Comme après... D'autres personnes qui ont peut-être des problèmes physiques, qui peuvent pas toujours jouer tous les tournois et donc sont obligés de gérer un petit peu plus leur calendrier de tournoi.
Alors le niveau de forme justement, tiens, parlons-en parce que le vôtre est optimal en ce moment. On a beaucoup parlé de la victoire de Joe Wilfried Tsonga à l'Open 13 bien sûr dimanche dernier. Vous aussi vous avez eu une très bonne semaine du côté de Dubaï avec cette finale disputée malheureusement perdue face à Venus Williams. Mais quelle semaine pour vous Virginie ? C'est vraiment une semaine, allez on va dire pratiquement idéale.
Oui, c'était une très bonne semaine pour moi, vraiment superbe, parce que j'ai fait de très gros matchs, j'ai très bien joué et j'ai dû enchaîner tous les jours un match de plus et de super bons matchs. Donc c'était vraiment génial pour moi. Je suis vraiment très contente de ma semaine, même en ayant perdu contre Venus en finale. Que du positif à retenir pour moi et voilà, donc là actuellement c'est vrai que j'étais plutôt en forme depuis le début de l'année avec ma tournée australienne où ça s'était bien passé, bien commencé et puis après j'ai pu me repréparer pour partir à Paris et à Dubaï et faire le maximum et j'en suis ravie par rapport à mes résultats.
Alors quel contraste hein, d'ailleurs à Paris ça s'était on va dire très mal passé et puis là à Dubaï, victoire sur Bondarenko, sur Safina numéro 2 mondial quand même, Antukova, Zvonareva numéro 5, Kanepi en demi-finale, Carole Bouchard, c'est vrai que d'une semaine sur l'autre, mais comme quoi des fois ça tient à rien.
Mais justement on s'était vu à l'Open Gaz de France après cette défaite contre Pavlyuchenkova et vous m'aviez dit j'étais stressée, j'arrivais pas à me détendre alors que le début de saison était plutôt bon. Est-ce que cette défaite, ça vous a un peu énervé et ça a fait que vous avez tout lâché la semaine d'après ?
Au contraire, ça m'a beaucoup frustrée et j'ai un petit peu paniqué après ma défaite à Paris parce que c'est vrai que c'est en général quand je perds, en fonction de la manière dont je joue, ça peut être un peu long pour moi de digérer ma défaite, ça peut aller jusqu'à 2 jours. Alors j'ai eu du mal à évacuer justement tout ce stress, cette frustration que j'ai eue avant d'arriver à Dubaï. Et donc à Dubaï, je me suis battue, j'ai essayé de me relâcher dès les premiers tours sur le tournoi de Dubaï pour évacuer tout ce stress et cette frustration qui était difficile pour moi, sachant que je savais que je jouais très très bien, je l'avais déjà prouvé en Australie et je voulais pas que cette défaite à Paris me coince pendant quelques semaines.
Et Virginie, en fait, t'as évacué toute ta frustration après ton match contre Zvonareva. Parce que là, vraiment, tu m'as fait peur après le match. Tu pleurais, mais c'était pas possible.
Je crois que là où j'ai commencé à jouer mon meilleur tennis, c'était contre Zvonareva.
Incroyable ce match.
Jusqu'en finale.
7-6, 7-5, hein, très long, très accroché.
Il fallait voir les échanges. Hein. Mmh. Ouais.
C'était vraiment incroyable ce match, très difficile mentalement mais aussi physiquement. Et le fait de pleurer à la fin, c'était beaucoup de choses pour moi. C'était beaucoup d'évacuation au niveau de ma semaine dernière où ça s'était pas très bien passé. Ensuite, cette performance qui a été superbe pour moi, le fait d'avoir enchaîné après avoir battu Safina. Et puis, ce match difficile où elle ne lâchait rien, Vera, c'était très difficile pour lui passer dessus et j'ai rien lâché jusqu'au bout et c'est ça qui m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. J'ai été très émotive de cette grande victoire et d'être enfin passée pour jouer le tour suivant. Donc il y a plein de choses et puis aussi la vie de tous les jours qui n'est pas toujours facile à gérer et donc le fait d'avoir des résultats en s'accrochant à chaque fois parce que je travaille dur pour y arriver et donc en plus de ça il y a toujours aussi la vie privée qui s'y ajoute et c'est pas toujours rose donc toutes ces choses-là accumulées font qu'à un moment donné quand on commence à avoir des résultats qui paient ça fait toujours du bien au moral et donc on lâche prise un petit peu on pleure parce qu'on est super contente et parce que ça nous fait surtout du bien, ça nous soulage de voir que les résultats arrivent et donc ça fait toujours plaisir.
Myrtille.
Oui, Virginie, il y a quelques jours à Coubertin, là à Paris, on avait parlé ensemble du cas Venus Williams. On ne savait pas encore que vous alliez la jouer une nouvelle fois en finale. Vous l'avez déjà battue, vous avez déjà battu. Est-ce que vous pourriez raconter aux auditeurs ce que vous nous disiez l'autre jour, à savoir que Venus Williams, vous avez déjà eu peur face à elle. Elle fait peur en face.
Ah oui. C'était suite à un service, je crois, non?
Oui, c'est ça. Racontez un petit peu ça.
Je l'avais joué à Anvers, à Anvers, et puis même aux États-Unis, à San Diego, il y a quelques années, et elle avait fait un service à plus de 210, 215, je crois. Je crois que ça atteignait les 220 km/h. Et donc c'était un de ses plus gros services dans le match et elle m'avait visé sur le ventre. Donc moi je m'attendais pas à recevoir une balle sur moi, je pensais plus sur les côtés. Et elle s'était tellement énervée parce qu'elle était pas contente que je l'accroche ou quoi que ce soit. Et donc elle m'avait visé dessus et moi au dernier moment j'ai plus que bouger la tête parce que j'ai pas eu le temps de bouger mon bassin et mon bas du corps pour pouvoir me décaler et éviter la balle, ce qui fait que j'étais un petit peu comme dans une cage, dans le gardien de but au foot où j'ai dû juste bouger la tête pour éviter la balle parce qu'elle m'arrivait quand même direct sur le visage. Et donc là, j'ai eu un peu la peur de ma vie sur le court. Parce que j'ai dit, oh là, je t'ai rien fait, moi, mais bon. Donc c'est vrai que c'était assez marrant comme histoire.
Et là, elle est toujours comme ça, Vénus, là, vous qui l'avez rejouée en finale à Dubaï?
À Dubaï, c'était un petit peu plus différent, je pense. Je pense que y a déjà un petit peu plus de respect vis-à-vis de moi, je pense, parce que c'est pas la première fois qu'on se joue, qu'on se rencontre, et elle commence à me voir, à m'apercevoir ou à me connaître un petit peu plus sur le circuit. Et donc là, non, je pense qu'il y avait un match où elle était un petit peu. Elle me craignait peut-être un petit peu d'entrée de match, même pendant tous les deux sets, parce que bon, le match n'était pas encore complètement terminé. Et donc c'était vraiment intéressant parce que moi j'essayais de l'agresser du début jusqu'à la fin. Et elle, on sentait qu'elle devait aussi être au meilleur niveau de sa forme pour pouvoir me battre. Et donc c'était assez intéressant. Elle a été super sympa avec moi à la fin du match pour me féliciter de ce que j'avais fait. Et c'est vraiment une fille très 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 gentille par rapport à des fois où quand elle veut vraiment vous faire peur sur le terrain, elle le joue ce côté-là. Mais quand même, à l'extérieur du court, elle est chouette.
C'est comme Julien Varley. C'est pour ça que je joue pas avec lui, parce que sinon, il me serre dessus sur le ventre et après, j'ai la peur de ma vie, donc c'est pas possible. Virginie, juste pour finir, ça donne forcément des ambitions. Vous espérez quoi, là? Qu'est-ce qui vous motive? Là, vous avez battu deux top 10.
Ce qui me motive, c'est de continuer à travailler, de savoir que le travail, à un moment donné, porte ses fruits. Et puis après, continuer son propre chemin. Donc voilà, c'est super pour moi de voir que les résultats arrivent. Et il faut que je continue à y croire et à m'accrocher et à me battre.
Merci beaucoup Virginie Razzano d'avoir été avec nous ce matin, c'est en tout cas passion. Sur RTL, l'équipe dans Carrément Tennis. On espère vous retrouver avec de nouvelles belles victoires tout au long de la saison, et notamment, pourquoi pas, du côté de Roland-Garros. Merci beaucoup Virginie, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci de nous avoir rejoints sur l'antenne d'RTL, l'équipe. Merci à Julien Varley, à Carole Bouchard, à Myrtille Rambion, à Benoît Mélin d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. 6-5 pour Gilles Simon face à Fabrice Santoro. Premier quart de finale du tournoi de Dubaï, c'est très accroché. Richard Gasquet lui affrontera Andy Murray un peu plus tard dans la journée. Rendez-vous la semaine prochaine pour Carrément Tennis. Et dès vendredi prochain, le premier tour de Coupe Davis également, ne l'oubliez pas. France, République Tchèque du vendredi 6 au dimanche 8 mars. Excellente fin de journée à tous.
RTL, l'équipe. Carrément Tennis. Eric Silvestro.